tous les jours, de lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré, alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épargner, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Canal FM.
Bavon Kozo, bonjour, shalom, assalam alaikum. Rassurez-vous, nous sommes bien rentrés de Sokodé après le forum économique de la région centrale que vous avez suivi en direct le vendredi dernier. Nous sommes rentrés sains et saufs, Michel Kokou, Victor Gwe Tomenga et moi-même. Nous en rendons grâce et gloire au Tout-Puissant Dieu le Miséricordieux. Et nous vous saluons aujourd'hui, le lundi 16 octobre 2023, vous toutes et vous tous qui écoutez le Club de la Presse sur Radio Centrale FM à Sokoré, mais également Radio Sama FM à Baganiamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapan, Radio La Paix à Takpamé, Radio Lumière à Nero, naturellement Canal FM à Lomé ici, mais également dans le monde entier par le biais des radios numériques. Radio Gameli Nopito, Radio Le Bénin et Bénin Radio, toutes les autres applications. Le sage nous rappelle aujourd'hui que les mains salies par le travail ont l'odeur de la dignité. Encore une fois, les mains salies par le travail ont l'odeur de la dignité pour nous exhorter à travailler, toujours travailler, encore travailler, travailler bien, travailler vite, et travailler beaucoup pour honorer la devise de notre pays que Didier Komiasogba va nous rappeler. Didier, bonjour d'abord.
Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. La devise du Togo, travail, liberté et patrie.
Travailler pour consolider la liberté et construire la patrie. C'est pas Jacques Laïa Djakouti qui va nous mentir, qui va nous démentir. Jacques, bonjour.
Oui, il est notable de travailler bien, mais il faudrait pas que une partie de cette fortune-là reste, disons, entre les mains des individus, mais que cela puisse profiter également à tout le monde. C'est ça le plus important. Travailler, bien travailler, c'est une très bonne chose. Ça, il faut le reconnaître, parce qu'il est dit que l'homme vivra également à la sueur de son front. Travailler est une bonne chose, mais il faudrait que le travail que les uns des autres sont en train de faire, que ce travail-là soit bien également rémunéré, et que la richesse effectivement enfuie par les richesses de ce pays profite également aux Togolais, aux Togolaises que nous sommes.
Merci, que le fruit de notre travail individuel et collectif soit bien partagé pour le bien, pour le bonheur de nous tous. Aujourd'hui au Club de la Presse, ça va être une émission tous azimuts. Nous allons aborder plein de sujets de proximité. Il y aura toute cette série de conférences de Fora qui se tiennent à Lomé. Nous savons déjà que le week-end dernier, il y a eu la troisième édition de la Journée internationale du café. C'était à Lomé. Et puis, depuis le week-end dernier, il y a également les états-majors des marines, des états côtiers de la CEDEAO qui se réunissent à Lomé. Cette semaine qui démarre aujourd'hui avec la semaine africaine de la microfinance, et c'est pas fini, le jeudi va s'ouvrir la 26e conférence d'auditrice 18 du Zonta Club. Ce sera du 19 au 21 octobre à Lomé. Et puis cette semaine également, C'est la clôture du jubilé des 130 ans de l'école catholique au Togo pour dire que notre capitale abrite plein de rencontres, de forats, de conférences. Nous allons devoir accueillir plein de d'hôtes aussi venant aussi bien des différentes parties du Togo que des pays voisins d'Afrique, voire au-delà du continent. Et pour nous honorer, pour nous parler de la clôture du jubilé des 130 ans de l'école catholique au Togo, nous avons l'honneur d'accueillir à nos côtés un grand frère, un vieil ami. C'est le directeur national de l'enseignement catholique au Togo, mon père Jean-Marie Chanel Afognon. Bonjour.
Bonjour Pierre-Marie Chanel Afognon.
Pierre-Marie Chanel Afognon.
Bonjour à vous-même et puis aux amis auditeurs auditrices de votre radio.
Plutôt un apprenti chrétien, les autres se le permettraient. Louis soit Jésus-Christ, mon père.
À jamais. Merci. À jamais.
Merci, mon père. Et voilà, le plateau est bien planté. Et vous allez entrer en scène à partir de 12h en appelant nos deux numéros traditionnels, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Eh bien, c'est parti. Mais nous avons parlé de travail. Encore, Jacques Djakouti, que nous travaillons dans des conditions de sécurité, n'est-ce pas?
Oui.
Parce que je suis tombé ce matin sur une information qui me fait froid dans le dos. C'est à la une du confrère Liberté, photo à l'appui, qui parle d'un accident de travail survenu à Edith Togo, Togo Press, une machine d'imprimerie qui a déchiqueté la main d'un agent. Nous avons appelé le directeur Rémi Assibanafay pour lui apporter notre solidarité, notre compassion. Il nous a assuré que ce confrère, ce collègue accidenté est pris dans les meilleures conditions. Mais Jacques, c'est l'occasion encore de rappeler à tous les directeurs des organes médias, à tous les directeurs de sociétés, de permettre que leurs agents, leur personnel travaillent dans des conditions optimales de sécurité. Jacques.
Je voudrais effectivement présenter également ma compassion à ce compatriote qui a eu ce problème. J'ai vu également l'image. Il faut avoir effectivement le cœur pour pouvoir considérer ce qui s'est passé au niveau de ce compatriote, parce que ce n'est pas du tout facile. Et ceux qui ne supportent pas de voir également le sang, c'est un peu difficile de voir ce qui s'est passé avec notre compatriote. Une fois encore, mes compassions. Comme l'avait si bien dit, vous savez, au niveau de presque toutes les entreprises, il faudrait aujourd'hui que nous savons qu'il y a une commission du travail qui, de temps en temps, va effectivement sur les chantiers pour voir est-ce que les compatriotes qui travaillent au niveau de ces chantiers-là ou bien au niveau de ces services ont également un peu le minimum pour la protection de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ce que nous avons vu au niveau d'Edith Togo, il paraît que c'est une machine, c'est une machine qui a broyé la main de ce compatriote togolais. Comme vous l'avez dit, le directeur a donné également sa version des faits en disant qu'il y a déjà une équipe qui a pris en charge le compatriote, une fois encore invité, parce que une chose, ça, est d'employer les gens, une autre chose est de déclarer les gens là au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Parce que s'il y a ce genre d'accident, je sais que la Caisse nationale de sécurité sociale prend en charge souvent les accidentés, dans ces cas-là, pour pouvoir les faire soigner. C'est le lieu d'inviter les responsables, les directeurs de société, tous ceux qui emploient des compatriotes qui sont en train de travailler dans leur société, de déclarer effectivement nos compatriotes à la Caisse nationale de sécurité sociale. Une chose est d'employer les gens, une chose est de prendre également soin des gens, une autre chose est d'assurer leur sécurité. Parce que quand vous allez au niveau de la zone franche et autres, et je vous dis ça, c'est la croix et la bannière. Mm-hmm. Allez là-bas pour visiter, pour voir les conditions dans lesquelles nos compatriotes sont en train de travailler. C'est pas ça, c'est pas là-bas, ça ne s'arrête pas là-bas. Allez au niveau des chantiers. Vous vous rappelez entre-temps qu'il y a eu des problèmes au niveau de la construction du Grand Marché où on avait dit qu'entre-temps quelqu'un est tombé et décédé. Donc c'est le lieu d'inviter les uns et les autres à la prudence, inviter les uns et les autres également à accorder le matériel nécessaire.
Merci encore une fois, nos compassions, renouveler notre solidarité à ce confrère, collègue accidenté, au directeur de Edith Togo. Puis au-delà de cet accident, exhorter tous les employeurs à sécuriser leurs employés sur le lieu de travail. Cela pose le problème de l'assurance accident sur le lieu de travail et puis le gros problème même de l'assurance maladie universelle sur lequel le gouvernement a planché 2 semaines de suite avec cette assurance maladie qui va commencer à être intégrale à partir du 1er janvier 2024. Cette assurance maladie qui sera conjointement portée par l'INAM et la Caisse nationale de sécurité sociale. Didier Assogba, avec toi, c'est un autre confrère que nous allons évoquer plutôt positivement. Il s'agit de Joseph Yao Amegan, qui vient d'être promu à la tête de la télévision nationale, même si nous apprenons qu'il vient seulement de rejoindre la longue liste des directeurs par intérim.
Oui, depuis le vendredi dernier, le confrère Joseph Amegan a été donc porté à la tête de la télévision togolaise. Donc, il est le directeur de la télévision donc depuis le vendredi dernier. Et ça met fin à une longue parenthèse de tutelle de la télévision togolaise qui était assurée par cette tutelle-là, assurée par le ministère de la Communication, notamment sous l'ancien ministre Akoda Iwadan, et qui au nom donc des réformes en cours là-bas pour transformer les médias d'État en office, donc avait estimé que le processus était tellement avancé qu'il ne valait plus la peine de nommer un directeur pour la TVT ou un directeur par intérim. Il vaut mieux recruter déjà le directeur de l'office des radios et télévisions du Togo. Ben, sauf que depuis au moins 2 ans déjà, ce processus-là s'est arrêté quelque part, ou du moins on lui a dit d'attendre, et il attendait depuis lors, et du coup la télévision togolaise n'avait plus de directeur. Et des gens ont même dit que le ministre était lui-même devenu le directeur à l'époque, ce qui a valu des mises au point et tout ça. Mais est-il que la télévision n'avait pas de directeur? Joseph Amegan servait donc de coordonnateur de la chaîne jusque-là. Donc avec la nouvelle ministre de la Communication, Madame Yawa Kugan, qui décide donc au moins de doter la télévision d'un directeur qui pourra prendre les dispositions de gérer la chaîne en attendant que l'autre processus ne reprenne. Donc oui, le confrère doyen Joseph Amegan est désormais le directeur par intérim de la télévision. C'est bien dommage que ce soit par intérim, comme tu l'as si bien souligné, parce que quand on voit à la tête de pratiquement tous les médias d'État, il n'y a que des directeurs par intérim. Radio Kara, directeur par intérim. Radio Lomé, directeur par intérim. Télévision togolaise, directeur par intérim. Un peu.
On a parlé d'Edith Togo.
D'Edith Togo, voilà. Il y a Atop également, par intérim. Donc, il y a bien d'autres structures de l'État. C'est que des directeurs par intérim. On pourra dire que les gens n'ont pas toutes les coudées franches pour pouvoir naturellement mener les réformes et travailler comme il fallait. Donc c'est peut-être, si les gens nous écoutent, d'aller vite pour peut-être confirmer ceux qui sont là, des directeurs tout court, pourquoi pas, et ça aiderait ces structures à avancer.
Merci, je disais tantôt que nous avons pris la route jeudi pour Sokoné, nous sommes rentrés samedi, ça veut dire que nous avons emprunté la nation numéro 1, du moins sur l'axe Lomé-Sokoné. Et comment ne pas partager avec vous ce vu et constaté. Quand vous allez à Davier, au péage, la sortie nord du péage, vous traversez Davier jusqu'au traversée Thévier, c'est un véritable parcours de combattant. Vous avez l'impression d'évoluer dans un tunnel, la chaussée cabossée, avec tous les risques, quand on considère tous les gros porteurs qui empruntent cette voie-là. Davier, traversée Thévier, ça expose tout le monde à des risques. Et surtout quand vous arrivez à Thévier, mon nous, il y a d'abord une station-service Total là-bas, les vendeuses de pain et de différentes denrées alimentaires qui viennent obstruer la chaussée à se demander s'ils sont conscients des risques qu'ils courent. Maintenant, vous arrivez à Thévier au niveau de la préfecture de Zio, mais de Thévier jusqu'à Makpapé, mais la chaussée est assez fortement dégradée. Beaucoup de trous dans la chaussée. À se demander comment, quel trou vous allez éviter, à quelle vitesse rouler. Vous allez molo jusqu'à Djengré. Maintenant, de Djengré jusqu'à Sokodé, c'est encore des trous par ici. La chaussée également affaissée par là. Or, c'est la nationale numéro 1. C'est l'épine dorsale de notre pays. Est-ce que toutes les autorités qui empruntent cette voie-là font les mêmes constats que nous? Et puis, après l'émission de vendredi, Michel et moi, on a fait un peu de tourisme. Nous avons emprunté un peu la nationale numéro 17, Sokoné-Bassa. Vous vous rappelez, cette artère est longue de 75 km. Et les travaux de réhabilitation avaient été lancés par Madame la Première Ministre le 6 février 2021. Des travaux qui devraient durer 24 mois d'après ce qui nous avait été annoncé. Alors, de février 2021 à octobre 2023, vous constatez que nous avons déjà 8 mois de surplus. Alors que le chantier est loin d'être terminé. Nous avons roulé sur une dizaine de kilomètres. En pleine journée, il fallait allumer les phares parce qu'il y avait la poussière. Nous sommes revenus, nous avons pris une autre artère, la nationale numéro 4, Sokoré, Chamba, Kaboli, frontière du Bénin. On a roulé sur une vingtaine de kilomètres. La route est longue de 86 kilomètres. Là aussi, les travaux de réhabilitation ont été lancés par Madame la Première Ministre depuis le 23 janvier 2023. Mais pas une seule pioche, pas un seul ouvrier sur la voie. Jacques Jacouti, voilà quelques réalités de notre réseau routier. D'abord, la nationale numéro 1, du moins de Lomé jusqu'à Sokoré, ce que nous avons vu et constaté. Les travaux qui traînent en longueur, qui dépassent déjà le délai pour la route Sokoré-Bassa. Et de janvier à octobre, 10 mois déjà que Madame la Première Ministre a lancé les travaux Sokoré-Chamba. Mais pas une seule pioche n'a encore commencé à travailler là-bas. Jacques.
Tu t'es seulement arrêté à Sokoré.
Oui, j'ai pas continué plus loin.
Voilà, il fallait continuer pour aller loin. C'est là que vous saurez qu'il y a également d'autres problèmes pour aller vers Dapaon. Il y a véritablement un problème. C'est pas si ceux qui avaient promis financer la réhabilitation de ces voies. Est-ce que le financement n'a pas été débloqué? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas. Le véritable problème aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas seulement la nationale numéro 1, SAS. Vous allez aujourd'hui dans nos quartiers, vous ne pouvez pas circuler. Ça, il faut reconnaître qu'on a un sérieux problème de déficit au niveau des routes dans notre pays. Ça, il faut être clair, il faut être sincère. Je félicite effectivement les compatriotes. Quand vous allez dans certains quartiers, SAS, vous ne pouvez pas imaginer que vous êtes à Lomé. Croire que vous êtes dans une autre planète, mais c'est Lomé. Certains de nos compatriotes sont obligés, ça, tenez-vous bien. Ils ont les véhicules, mais ils sont obligés de laisser leur véhicule marcher pour trouver un ponceau, aller prendre des émigrants avant d'aller au boulot. Dans ces temps dont je vous parle, dans ces saisons pluvieuses-là, il y a certains artères, les véhicules ne peuvent même plus rouler. Chaque fois, on a toujours interpellé sur ce plateau le ministère, effectivement, des travaux publics. Il y a également, le Togo a bien fait d'avoir également, il y a notre ministère, le ministère en charge des pistes rurales. Mm-hmm. Il y a également le ministère qu'occupe actuellement le ministre d'État Kodjo Adeyé, qui est le ministère de l'urbanisme. Voilà, il y a également l'urbanisme. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Au moins, les routes secondaires dans notre pays, il faudrait que l'État prenne le temps, le soin de pouvoir les arranger. Vous avez parlé de Sokoré, la route nationale numéro 1. Vous savez qu'il y a une route où transitent les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens. C'est une route, je vous dis, internationale. Et il y a un trafic énorme sur cette voie-là. Je ne sais pas si vous n'êtes pas amusé de prendre part, comme vous n'étiez pas à Kara, si ce que vous avez fait, vous êtes amusé de prendre la route de Kemerida pour aller vers le nord du Bénin. Vous verrez que la plupart de nos compatriotes, c'est la voie-là qu'ils empruntent maintenant.
En passant par Ketao.
Voilà, c'est la voie-là qu'ils empruntent. Non, sincèrement, ça c'est une bonne initiative de rouler sur ces voies-là et interpeller nos dirigeants. Vous avez bien fait de parler du Premier ministre parce que c'est lui qui a lancé les travaux. Aujourd'hui, ceux qui sont au niveau de Bassar se plaignent. Pas seulement à Bassar. Je ne sais pas si vous avez emprunté la route de Kachamba. Vous verrez également.
Non, pas encore.
Voilà, allez voir également en fait, là-bas.
Pas cette fois-ci plutôt.
Justement, pour vous dire qu'il y a un seul problème. Ça, il y a un problème.
Et alors, pour les chantiers qui accusent déjà beaucoup de retard, je rappelle que la route Sokoré, ça devrait être réhabilité en 24 mois. Or, on accuse un retard de près de 8 mois. Et les travaux de la route Sokoré-Chamba n'ont pas encore 10 mois que Madame la Première ministre est allée lancer la première pioche. Or, la Première ministre disait il y a quelques jours au lancement d'un projet, et je la reprends, il n'y aura aucune tolérance pour les projets mal exécutés, pervenait Madame Tominga Dogo. Et plus loin, elle disait encore, un travail est mal fait et qu'il faut reprendre, demande encore plus de ressources. Et ce sont des ressources que nous perdons. Cela fera que nous n'aurons pas assez de ressources pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, dont celui d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Alors, les propos de Madame la PM ont été beaucoup salués et nous nous faisons avec beaucoup de respect le devoir de lui rappeler la route Sokoré-Bassa et Sokoré-Chamba accuse du retard.
Fondamentalement, ce sujet-là est un sujet, je veux dire, crucial pour le pays, pour la nation. Parce que on était dans une délégation, toi et moi, il y a quelques mois encore en arrière, et on revenait du nord du pays. Nous étions allés à Kara, on revenait, on sortait à peine d'Atapame, et il y a eu un accident à la sortie sud d'Atapame. Vous avez vu qu'on a perdu pas moins d'une heure de temps parce qu'il y a eu environ 2 heures de temps parce qu'il y a eu
la route était totalement obstruée,
bloquée, personne ne pouvait aller, personne ne pouvait revenir. C'était juste un accident. On avait à l'époque rappelé ici que on n'a que cette seule route et si vous voulez ce seul tronçon parce que finalement le dédoublement tant promis peine toujours à arriver, on espère qu'il arrivera. Et donc, si quelque chose arrive aujourd'hui et que cette voie-là se bloque, c'est tout le Togo qui est bloqué ça va être bloqué pendant le temps que ça va durer. Le pont d'Amapapé nous a peut-être donné une leçon, il y a quelques années en arrière, mais au final, je ne sais pas si on a bien retenu cette leçon. Et on continue de prendre des risques avec cette nationale numéro 1-là, jusqu'à ce que peut-être le pire n'arrive, que personne ne souhaite d'ailleurs. Mais maintenant, quand on revient sur les chantiers, qui sont lancés et qui accusent de nombreux mois de retard. La route de Bassar est attendue pour être inaugurée depuis février ou mars ou tout au moins. Là, on est en octobre et ce n'est toujours pas fini. Vous parlez de Sokoré, Chamba, frontière du Bénin. Oui, là également, vous avez fait le constat. Le Premier ministre était allé même sur le chantier de la route qui va à Néro ici. Mais combien de temps ça n'a pas pris? Des populations étaient obligées de passer par, de n'importe des ruelles pour aller chez eux, des gens qui, leur activité génératrice de revenus était bloquée pendant des mois. Dieu seul sait si cette route-là actuellement était vraiment finie. Surtout qu'au niveau de Simtogo, là, il y a encore une reprise des travaux au niveau de cette même voie. Donc,
ça fait déjà 2 semaines que cela dure.
Ça fait déjà
alors
2 semaines.
On aurait dû y aller par urgence parce que c'est un axe vraiment stratégique.
Donc, vous comprenez que quand on dit il y a des efforts qui sont faits, on les salue. Nous reconnaissons, comme certains diraient, le bras des autorités, ce qu'elles font, on les salue. Mais la réalité nous revient constamment en face de ce que les déficits sont là et les travaux mal exécutés nous rattrapent. Et les travaux qui prennent de longs mois de retard également causent d'énormes conséquences aux populations et des gens mènent difficilement leur activité. Donc peut-être que Madame le Premier ministre, à partir de ces propos-là, doit reprendre encore son bâton de pèlerin, de mère de famille, pour peut-être tirer un peu d'oreille à quelques-uns pour que naturellement les travaux avancent et que les populations ne demandent pas mieux qu'un peu de liberté pour circuler ici et là.
Merci,
et venir.
Merci, cela fait 30 ans que l'Église catholique forme la jeunesse togolaise dans ses écoles. C'est un jubilé qui mérite célébration, n'est-ce pas mon père?
Bien sûr, 130 ans.
Hein. 130 ans.
130 ans. Les braves premiers missionnaires allemands de la société du Verbe divin qu'on appelle SVD sont arrivés au Togo le 27 août 1892. Et un mois plus tard, le 28 septembre 1892, ils avaient ouvert la toute première école. Les archives nous disent qu'il y avait 25 élèves. Et cette école, selon les archives, tantôt on parle d'Adaolato, tantôt on parle d'Amoutievé, mais dans tous les cas, c'est dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'ancien ou le vieux Lomé. Et du coup, depuis l'année dernière, nous avons, avec la conférence des évêques du Togo et les autorités de notre pays, nous avons procédé à l'ouverture de ce jubilé des 130 ans de l'école catholique au Togo. C'était le 19 novembre 2022. Et maintenant, avec la décision de la conférence des évêques du Togo, aussi avec information aux autorités en charge de l'éducation dans notre pays, nous sommes en route vers la clôture qui aura lieu le 25 novembre de cette année. Mm-hmm. Mais il y a une série d'activités qui vont nous conduire à cette date. Et c'est ainsi que déjà, du 25 au 28 du mois passé, nous avons eu la semaine de l'art et nous avons d'autres activités et qui nous attendent, notamment cette semaine aussi.
Justement, je vais y revenir. Cette semaine, ce sera le jeudi, quand vous organisez une journée de conférences et de débats.
Tout à fait. Nous organisons une journée de conférences et de débats, dont les intervenants sont tous des spécialistes de l'éducation, mm-hmm, et des universitaires. Parce que c'est important de pouvoir s'arrêter et en s'arrêtant, essayer de faire mémoire en redécouvrant notre histoire, mais en même temps nous repositionner en tant que partenaire aux côtés de l'État togolais pour une éducation humaine intégrale de qualité, qui est le projet éducatif de l'enseignement catholique au Togo.
Eh bien, la journée de conférences et de tables rondes se tiendra au centre Marie-Marthe. Ce sera au centre OCDI à Kouyanaoué.
Tout à fait.
Voulez-vous partager avec nous le thème de cette journée, mon père?
Alors, je voudrais simplement dire que nous allons passer la journée, la première partie autour de deux grandes conférences et l'après-midi avec une table ronde. Et le grand thème, le voici, l'école catholique au Togo, histoire, acteur clé de son développement et grande figure formée par elle. Mm-hmm. Et il faut dire que tout cela est décliné en conférence. D'abord, à 9h, nous attendons nos frères et sœurs. C'est ouvert à tout le monde, hein. C'est une conférence publique. Toute personne qui veut, qui s'intéresse à l'éducation en général, et l'éducation catholique en particulier attendue, vous êtes tous invités. Et donc déjà à 8h, nous allons commencer la mise en place avec la cérémonie d'ouverture et la première conférence que nous avons intitulée conférence d'ouverture est prévue à 9h sur le thème l'enseignement catholique dans l'histoire de l'éducation au Togo, origine, mission et importance dans la formation humaine intégrale de qualité hier et aujourd'hui. Bon, la personne qui va nous aider peut reformuler le thème, mais voilà le thème officiel. Et il y aura des débats. Et il y aura une autre conférence à partir de 11h qui a pour thème la réalité salariale du personnel de l'enseignement catholique et la politique de la fonction enseignante. Quel partenariat public et confessionnel pour relever le défi d'une éducation de qualité au Togo? Comme nous le savons tous, un conférencier, on lui donne la latitude de reformuler un thème. Mais moi, je partage avec les auditeurs auditrices ce qui est au programme. Et il y aura une pause à partir de 13h pour un déjeuner en famille entre nous, entre participants, pour refaire les forces
Et à 14h30, nous allons reprendre avec la table ronde autour du grand thème École catholique au Togo, historique, acteur clé de son développement et grande figure formée par elle. Et il y a des sous-thèmes que des panélistes vont développer. Je rappelle à nouveau que nous donnons la parole essentiellement à des spécialistes et universitaires. Nous n'avons pas voulu étaler des noms parce que nous nous disons, si on est intéressé par quelque chose, c'est pas d'abord la personne qui communique, mais c'est ce qu'il y a dedans. On voudrait pas faire une publicité en se basant sur l'image ou la notoriété de tel ou tel autre. Nous voudrions inviter nos citoyens qui s'intéressent à ce que nous faisons pour partager ensemble. Donc, comme sous-thème historique et fait marquant, l'évolution de l'école catholique au Togo, de 1892 à 2023, donc les grands éléments. Deuxième sous-thème, acteur clé du développement de l'école catholique au Togo, quel défi pour une ressource humaine de qualité aujourd'hui? Nous le savons, hein, la première richesse d'un pays, ce ne sont pas nécessairement de l'or et tout ce qu'on peut avoir comme minerai, mais c'est d'abord les personnes. Les ressources humaines, c'est ce qu'il y a de plus important pour le développement d'un pays. Et le troisième sous-thème, c'est l'école catholique au Togo et la formation de l'élite. Comment poursuivre aujourd'hui cette formation humaine de qualité pour un développement intégral? On sait que c'est pas de l'orgueil, mais l'enseignement catholique, y compris aussi l'enseignement protestant, en tout cas l'enseignement confessionnel, a essayé de faire ce travail de formation de qualité et à former des élites pour notre pays. En le disant, c'est avec beaucoup d'humilité, mais c'est aussi une réalité que nous ne pouvons pas cacher.
Merci. 130 ans, si nous-mêmes n'avons pas fréquenté l'école catholique, nous avons sûrement un parent proche ou lointain, un voisin, quelqu'un qui s'est fait à travers l'école catholique. Cette école catholique qui continue à s'étendre depuis le jardin d'enfants jusqu'au lycée, vous formez, enfin, jusqu'à l'université même.
Aujourd'hui, oui, depuis quelques années.
Vous êtes le directeur national de l'enseignement catholique. Vous devez avoir un certain nombre d'écoles, hein, de tous niveaux, un certain nombre de personnels, aussi bien enseignants qu'administratifs. Quand un des thèmes portait tantôt sur les conditions salariales de votre personnel, il y a eu quelques temps, vous avez dû perdre quelques cheveux dans les mouvements de revendication de vos personnels, mon père.
Oui, mais c'est pas fini, hein.
C'est pas fini.
Et il faudrait que nous soyons vrais envers les citoyens togolais. À ce jour, l'enseignement catholique n'arrive pas à traiter son personnel comme cela se doit. Il faut dire ça. Et en le disant, essayez aussi de montrer les raisons. La première raison fondamentale, c'est que l'école catholique dans la nation, depuis toujours, a fait l'option d'être une école sociale, accessible à tous. Ne pas en faire l'école des riches. Et pendant longtemps, surtout dans le préscolaire primaire, l'État togolais a pris en charge totalement le salaire des enseignants catholiques et protestants, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que l'État ne fait plus rien, loin de là. L'État continue de payer environ 40% de notre personnel dans le préscolaire primaire et l'État donne une subvention pour le secondaire. Et nous disons ici une profonde gratitude aux autorités en charge de l'éducation dans notre pays et l'ensemble des ministères qui ont cette responsabilité, et, le chef de l'État et nos parlementaires, tous ceux qui décident en ce qui concerne le budget de l'État. Mais ce partenariat pourrait devenir très riche en faveur des citoyens si on arrive à aller vers disons un nouveau partenariat qui va permettre à l'école confessionnelle en général et catholique en particulier d'être encore plus accessible. Et vous savez, plus de 98% des frais scolaires que nous collectons, cela finit dans les salaires. Et malgré ça, notre personnel est très mal payé. Il y a certains modèles africains qui peuvent beaucoup nous aider. Quand je prends par exemple le Mali, Le Mali, c'est un des États qui a pris l'option de prendre en charge intégralement le salaire des enseignants catholiques, en les payant tout comme les fonctionnaires, excepté quelques avantages. C'est aussi le cas de la France, avec la loi Debré en France. Mes collègues catholiques en France, en tout cas le secrétaire général, il n'a pas mes soucis, parce que son souci, c'est plutôt au niveau pédagogique, au niveau organisationnel. Le souci n'est pas salarial, parce que l'État a pris cette option. Nous ne disons
merci,
pas...
Merci, mon père. Nous n'avons pas fait la conférence
avant
le jeudi. C'est
d'accord.
Juste une annonce.
D'accord.
Tous ceux qui se sentent intéressés sont invités au centre OCDI le jeudi,
toute la
journée, pour suivre cette longue journée de conférences, de tables rondes avec tous les thèmes et les sous-thèmes. Je rappelle le thème central, c'est l'école catholique au Togo, histoire, acteur clé de son développement et grande figure formée par elle. Mon père est très occupé, mais il a trouvé un peu de temps pour venir partager avec nous. Jacques Djapouti, il faut lui dire merci.
Justement, féliciter, comme vous l'avez si bien dit, l'Église catholique, parce que vous savez, nous qui venons un peu des milieux un peu reculés, les premières écoles, c'est les écoles catholiques, il faut le reconnaître. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, en partie, c'est grâce effectivement à l'école catholique. Donc sincèrement, merci. Il faut reconnaître que les religieux font beaucoup de choses dans ce pays, comme lui-même il a si bien dit. L'État fait également son mieux de pouvoir soutenir effectivement les religieux dans le cadre de cette formation. Félicitations à l'Église catholique, parce que aujourd'hui ils sont arrivés à créer l'université catholique,
UKAO,
qui est également une très bonne chose. Je crois que c'est le lieu, compatriotes que nous sommes, de pouvoir rendre effectivement hommage à l'Église catholique pour tous les efforts. Parce qu'il faut reconnaître que les protestants également en font. Mm-hmm. Il faut reconnaître que l'Église en général dans ce pays fait des efforts. Merci beaucoup.
Merci les catholiques qui ont l'UKAO, mais il y a également un centre de formation supérieure à NDE. Là.
Oui, ESAG NDE. Nous avons des écoles du supérieur. Oui. ESAG NDE, l'Institut Don Bosco, mm-hmm. et puis Agatha Carelli vers Agouet, et plus ou moins Antilla, parce qu'Antilla forme jusqu'au niveau BTS.
Oui.
Bon, certains disent que BTS n'est pas supérieur, mais je crois que c'est supérieur.
Merci. Sans faire de publicité, reconnaissons que des écoles comme le Collège Saint-Joseph et comme le Collège Lycée Chaminade ont été beaucoup dans la formation de plein de cadres.
Edim Kodjo était de Saint-Joseph, hein? Edim Kodjo, monsieur Edim Kodjo,
et un certain Paul Nassimbe également fréquenté à Chaminade, d'après
oui,
ce qu'on nous a rapporté.
Ou non, c'est vrai, c'est
merci,
vrai.
C'est vrai. Et à côté des catholiques également, l'enseignant protestant, qui a beaucoup investi.
Bien sûr.
Il y a également les écoles islamiques également qui se créent ici et là. Mmh. Chez moi, Haute, il y a même des écoles Assemblée de Dieu, l'église oui. chère à Jacques Djapouti. Mmh. Tous les confessionnels qui joignent la formation éducative à la foi. À vous tous, nous vous disons merci. À travers vous, mon père, vous allez transmettre à vos confrères et vos consœurs.
Nous, je le ferai. Merci à vous aussi, à votre radio. Merci à nos autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner. Ensemble, nous ferons davantage pour une éducation de qualité au Togo.
Ensemble, nous irons loin si nous serrons les mêmes. Didier, je le disais, cette semaine, un certain nombre d'activités, il y a cette conférence débat de l'enseignement catholique le jeudi, mais le week-end a déjà commencé avec ce que j'ai lu dans tes papiers, à savoir la troisième édition de la journée internationale du café que le Togo a abrité. Et puis depuis quelques jours, c'est les états-majors des marines des états côtiers de la CEDEAO qui se réunissent chez nous toute la semaine. Le confrère Togo Matin même y consacre un article vers un renforcement de la sécurité dans le golfe de Guinée et les côtes togolaises. Et c'est pas fini. Il y a aujourd'hui même la semaine africaine de la microfinance qui s'ouvre jusqu'à la fin de la semaine. Le jeudi 19, Il y aura également l'ouverture de la 26e conférence de district 18 de Zonta Club, laquelle conférence durera jusqu'au 21 octobre. Devant cette série de rencontres de fora, c'est un nombre d'invités, d'étrangers seront parmi nous. C'est quand même la place de Lomé qui se confirme comme place de rencontre. Également, c'est les hôtels et tout ce qui tourne autour de ces secteurs-là qui vont un peu sourire.
Oui, naturellement, vous savez que, enfin, c'est pas besoin de le rappeler, Lomé est une place de conférence. Lomé est, on va dire, un centre pratiquement en Afrique de l'Ouest, par exemple. Lomé reste un peu comme un centre et c'est facile de passer de l'Est pour arriver à Lomé, comme de passer de l'Ouest pour arriver à Lomé, un peu comme descendre du Nord de l'Afrique de l'Ouest pour arriver à Lomé. Donc le point, le centre de Lomé accueille beaucoup ces conférences-là, des fois même pas à l'initiative des autorités, des fois c'est les organisateurs qui choisissent de se retrouver au centre et au milieu qui se retrouvent être Lomé. Donc du coup, toutes ces activités permettent justement un peu de booster l'économie togolaise, les hôtels, le tourisme, la restauration. Et c'est toujours à l'avantage du Togolais lambda qui n'en demandait pas mieux. Il y a naturellement la semaine de la microfinance qui reste une grande activité. La conférence de Zonta International également qui reste une très grande activité avec des gens qui sont annoncés venir d'un peu partout. La troisième journée internationale du café qui a eu lieu le week-end a vu la présence à Lomé d'une grande délégation de l'Organisation interafricaine du café avec le secrétaire général qui était également à Lomé avec ses équipes. Donc on voit que c'est Lomé, notamment l'économie togolaise, qui va mieux supporter. Et donc avec ces activités là, et qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre? Que d'autres activités arrivent, sans oublier l'activité de l'enseignement catholique avec le directeur qui est ici. Et je présume que des invités sont venus d'ailleurs également. Je profite également de l'occasion pour dire merci à l'enseignement catholique qui m'a permis. Je venais de soutenir donc un master à UCAO.
Félicitations.
Un master en communication publique et politique à UCAO, donc en juillet dernier. Donc oui, nous sommes tous.
Mais avant l'UCAO, il faut rappeler ça.
À un moment donné,
là-bas, il y a quand même le collège Christ Roi à Couvé qui a beaucoup formé de cadres dans le sud-est du Togo.
Si j'ai failli faire le lycée Christ Roi, mais au final le père, mon papa avait décidé que je fasse plutôt le lycée de Tablebo. Donc voilà, je n'ai pas.
Et moi, j'ai été directeur de ce collège.
Donc peut-être le père aurait été mon directeur à l'époque en 2000.
Il s'en aurait fallu de peu que vous racontiez Jacques Diakouti également, dont le papa a été en mission. Comme quoi le monde est vraiment petit. Merci. Revenons à l'actualité. Jacques Diakouti, donc aujourd'hui s'ouvre cette activité phare, la semaine africaine de la microfinance. Des journaux en parlent comme Togo Matin, qui écrit que le Gotha de l'inclusion financière se retrouve à Lomé. On va rencontrer des ministres, des représentants des organisations internationales, des investisseurs, des chercheurs, des banquiers, des innovateurs et institutions de microfinance venant de 58 pays, dont 40 pays africains, un certain nombre d'étrangers que nous allons avoir chez nous. Et le Togo qui occupe une place de choix en matière de microfinance avec plus de 85% de taux d'inclusion. Les microfinances ici au Togo, on ne finirait pas de les citer. Même l'église de l'Assemblée de Dieu a sa structure de microfinance.
Oui, nous avons la COPEC des Assemblées de Dieu. Je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour féliciter l'ensemble de nos compatriotes qui ont créé ces microfinances. Ça, n'eût été ces microfinances, je ne sais pas où nous en serons aujourd'hui. Ces microfinances-là ont boosté aujourd'hui l'économie de notre pays et a boosté également certains de nos compatriotes. Parce que vous savez, souvent, les plaies classiques au niveau des banques, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais aujourd'hui, vous trouvez presque tous les compatriotes, ils ont l'occasion d'aller faire les prêts au niveau de ces microfinances-là pour réaliser leurs rêves. Je voudrais vraiment féliciter l'ensemble des microfinances dans notre pays et féliciter également le ministère de l'économie parce que ce ministère a joué un rôle important en essayant d'encadrer ces microfinances. Parce que ne crée pas une microfinance qui veut. Dans le temps, vous avez vu certains créer ces microfinances. Quand ils prennent l'argent de nos compatriotes, ils ferment les portes, ils disparaissent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ne crée pas une microfinance qui veut aujourd'hui au Togo. Et franchement, félicitations à l'ensemble de ces microfinances qui sont implantées sur toute l'étendue du territoire togolais. Ils sont en train de faire un travail énorme. Je connais des compatriotes aujourd'hui qui vont en Chine, qui vont en Turquie, qui vont partout dans le monde. C'est grâce effectivement à ces microfinances. Je connais également des compatriotes qui ont regagné leur maison aujourd'hui. C'est grâce effectivement à ces microfinances-là. Les églises, on a bâti des églises, on a construit des choses. C'est vraiment également grâce à ces microfinances-là. Une fois encore, félicitations. Ma prière que cela se pérennise. C'est-à-dire, ne fermez pas d'un jour à l'autre et laissez effectivement les clients sur le carreau. Souhaitons que le travail qu'ils sont en train de faire, que ce travail-là puisse aller de l'avant. Parce que vous savez, entre-temps, le gouvernement également a passé par ces microfinances, parlant de FNFI, pour pouvoir faire des prêts à certains de nos compatriotes. C'est vraiment également une bonne chose. Si cette conférence-là a lieu aujourd'hui au Togo, c'est parce que le Togo a été effectivement... on a déterminé le point focal de ce pays pour organiser cette conférence parce que faut reconnaître que le sérieux est dans le Togo, surtout au niveau effectivement de ces microfinances.
La microfinance qui est une réalité tangible dans l'économie pour la part d'épargne, pour la part de financement, pour la part de crédit que ces microfinances octroient aux entrepreneurs. La preuve, les grosses microfinances participent au comité interne de crédit que le gouvernement tient chaque trimestre, ce qui est une forme de leur reconnaissance. Il y a même une direction au ministère des Finances qui s'occupe d'eux. C'est une bonne chose, sauf que Jacques parlait tantôt de leur rigueur, mais il y a encore quelques brebis galeuses qui malheureusement arrivent à infiltrer le secteur. Je ne vais pas citer de nom, mais de temps en temps, il y a une microfinance qui tombe par ici, qui tombe par là, qui crée des désagréments. C'est attirer l'attention à l'État de serrer beaucoup plus les vis et également aux promoteurs d'être plus sérieux pour mériter la confiance de leurs compatriotes qui vont mettre leur épargne. Parce que, parlant de l'épargne des microfinances, il y a une formule qui est très chère à Adrien Kokoumen Fedi, l'ancien directeur général de la FUSEC, qui aimait dire que l'argent que les gens viennent déposer à la FUSEC, c'est l'argent de la sueur à Derbega. Et on n'a pas le droit de ne pas bien s'occuper d'une telle épargne, Didier.
Oui, je crois que les autorités doivent, au-delà des efforts déjà qui sont faits, multiplier encore, mettre beaucoup de garde-fous. Parce que ces dernières années, au-delà de cette histoire de trading, le nombre de microfinances qui ont fermé, les portes qui sont parties avec de l'argent des Togolais est assez important. Même si c'est déjà 5, c'est très important. Imaginez le nombre de millions qu'ils ont eu à collecter, puis fermer les portes et disparaître. L'année dernière, par exemple, on en a entendu parler de 2 microfinances qui ont eu à fermer leurs portes. C'est déjà trop pour une société avec, comme tu l'as dit, l'argent de la sueur que des gens viennent déposer là et que d'un jour...
Tu imagines un peu une dame qui fait colico ou bien qui fait botocoin au bord de la route, du matin jusqu'au soir, sous le soleil, avec toutes les intempéries. Oui. Alors, une telle dame arrive à aller épargner 500 francs ou 1000 francs par jour. Oui. Elle ne va pas bien s'occuper de cet argent.
Oui, des gens collectent cet argent-là et après, on ne sait pas par quelle alchimie, ils disparaissent et on ne les voit plus. Et je ne sais pas si les autorités suivent généralement ces fermetures jusqu'au bout pour que, quel que soit le nombre d'années que ça fait, que les gens là soient rattrapés et qu'ils rendent compte aux populations et que ce qu'ils ont pris chez les gens, qu'ils restituent. Mais on a l'impression que si les gens s'évadent et qu'ils quittent le pays, on passe tout par perte et profit et ça, ce n'est pas bien. Et donc, ajouté à cette histoire de trading qui a eu lieu dans le pays en 2020-2021, par exemple, je pense que quand on veut véritablement parler de l'inclusion financière, il faut creuser tous ces aspects-là, voir quels peuvent être les garde-fous que l'État, alors là je parle de l'État togolais, peut mettre en place pour que ces garde-fous empêchent les individus, n'importe qui, de venir se présenter, collecter assez d'argent rapidement, et Dieu seul sait combien ils en collectent, et pour disparaître rapidement et laisser les Togolais encore plus dans leur misère.
Ça, c'est le vrai problème, oui, c'est Jacques. Quoi? Le vrai problème, c'est que, vous savez, les gens veulent être riches à la seconde près. Vous avez donné, quand on avait commencé l'émission, vous avez dit que...
les mains ne saluent ça, pas le travail, ont l'odeur de la dignité.
Juste, ça dit que vous ne pouvez pas vous lever tout de suite quand vous commencez le travail, on vous paie le premier salaire. Dans ce premier salaire-là, vous ne pouvez pas acheter un terrain. Vous ne pouvez pas vous acheter une voiture. Vous ne pouvez pas vous marier. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, pour ceux qui créent par exemple ce genre de microfinance, vous allez les voir. La première option, c'est d'abord d'aller au port pour aller investir. Et ils ne vont pas acheter même un véhicule de 1 million et quelques. Mais vous allez les voir dans un véhicule dans l'ordre de 10 millions. Mais attendez, vous voyez ce que vous puissiez détourner. Et l'autre aspect, vous allez, c'est les mêmes personnes qui étaient mariés peut-être avec une femme, dès qu'ils ont trouvé l'argent, et maintenant la femme qui est avec eux à la maison, ils renvoient la femme et prennent une autre femme. Vous voyez, et l'autre aspect, qu'est-ce que les gens font?
Des femmes.
Et d'autres vont même jusqu'à investir dans le ciment. Alors que vous n'avez pas combien vous gagnez.
Oui.
Au fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens comprennent. On vous met par exemple à un poste, travailler, et aujourd'hui, il faut reconnaître que certains réalisations, ce n'est pas des prêts. Hein. Les gens font des prêts. Mais si vous ne voulez pas faire le prêt, ce que les gens viennent déposer, vous ramassez.
Non.
Vous êtes obligé de fuir.
Non.
Merci beaucoup. Nous allons terminer par le général Yark qui défrait la chronique bien malgré lui au lancement d'un projet présidé par le Premier ministre de la semaine dernière. Le général ministre d'État, ministre en charge de l'eau, a tenu des propos qui reviennent dans la presse. Aujourd'hui, c'est Togo Matin qui écrit « Sécurité hydrique ». Le général Yark fait déjà parler au ministère de l'eau. Et puis, Nouvelle Opinion aussi qui écrit à la page 2 « Eau et assainissement dans le Grand Lomé ». Le ministre Yark rappelle la nécessité de mettre en place une police de l'eau. Alors, tout est parti de cette phrase. Quand le ministre disait que ne soyons pas surpris que quelqu'un débarque, enfin, une brigade débarque pour vérifier les papiers que nous avions avant de creuser notre forage. Alors, cela lui vaut une volée de bois vert ici et là. Mais sur le sujet, Nouvelle Opinion rappelle par exemple que, selon les experts du secteur de l'eau, les forages qui se créent de façon excessive, plombés ici, pourraient éventuellement entraîner une surexploitation des nappes phréatiques, entraînant de facto une baisse du niveau de la nappe et potentiellement la salinisation de l'eau. Et tous ceux qui ont des forages, devrait l'entretenir régulièrement avec la surveillance des services techniques pour s'assurer que l'eau produite par le forage est de bonne qualité. Et puis il y a des normes aussi pour creuser son forage, ce que nous ne respectons pas toujours. Jacques Laya.
Non, bon, vous savez, il ne devait pas avoir polémique sur cette affaire. Vous savez, c'est un détour d'un panel que le général a parlé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a posé la question de savoir, mais qu'est-ce que le Togo fait? Parce qu'on voit qu'il y a des installations un peu anarchiques, des forages.
Mm-hmm.
Et c'est là que le ministre a dit, non mais attention, les gens ne savent pas qu'il y a l'autorisation avant de pouvoir créer les forages.
Parce que le forage est régulé par le code de
l'eau,
qui impose des conditions dans lesquelles on devrait creuser son forage.
Voilà. Moi, ce qui me fait un peu mal, c'est de voir également des députés qui prennent position en faisant des publications. Parce que c'est les mêmes députés qui ont voté ce code de l'eau à l'Assemblée nationale.
Mm-hmm.
Si, par exemple, le général Yark avançait cet aspect, c'était aux députés de rappeler à nos populations qu'au fait, ce que le général dit, Le général n'a pas refusé aux compatriotes d'avoir des forages, mais il faudrait que les forages là respectent les normes. Mais c'est les mêmes députés aujourd'hui qui tirent à boulet rouge sur le général. Mais je suis étonné, parce que c'est eux qui ont voté le code au niveau de l'Assemblée
Jacques,
nationale.
Tu sais que de la politique à la démagogie, il n'y a qu'un
oui, filet, ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que franchi. C'était à ces députés-là, vous savez, ça, une chose est de voter les lois à l'Assemblée nationale, une autre chose de les vulgariser. Parce qu'aujourd'hui, je suis un peu... Je comprends nos compatriotes, parce que peut-être certains ne sont même pas au courant qu'il y a un code comme ça. Mm-hmm. Le général le disant, le général ne fait que rappeler l'existant. Ce n'est pas maintenant que le général veut effectivement inventer quelque chose. Mm-hmm. C'est ce que moi j'ai compris dans cette histoire.
Oui.
Et c'est vrai, quand les gens disent que non, que l'État ne fait pas les efforts de pouvoir donner de l'eau à nos populations, c'est vrai. Mais l'État ne peut pas aussi laisser nos compatriotes ça. Allez voir les conditions dans lesquelles certains piyawatas sont fabriqués.
Non seulement ça, même à domicile, certains qui creusent leur forage directement à côté
justement,
des fosses septiques, voire même dans l'environnement immédiat des cimetières, alors que selon le code, il faut une distance minimale qui doit séparer les fosses septiques, les cimetières et les décharges publiques du forage. Bon, c'est vrai que à qui la faute si le code
non mais c'est ce que j'ai dit voilà vulgarisé le problème
c'est l'occasion.
Le problème c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que nos députés en votant par exemple les lois les tests à l'Assemblée nationale lorsqu'ils sont par exemple en congé qu'ils repartent par exemple dans leur lieu
Jacques, le député vote la loi il revient au gouvernement de faire la sensibilisation autour des lois.
Non, ce que je voulais dire, vous savez, ce problème actuellement, c'est un problème sensible.
Mm-hmm.
Parce que vous avez vu le tollé que ça donne. On dit non, attention, le général, vous ne pouvez pas réguler parce que les Togolais ne sont pas les gendarmes ou bien les policiers.
Mm-hmm.
Vous voyez, l'ampleur que la chose prend, je crois qu'il faudrait, dès maintenant, lorsqu'on prend par exemple une loi, on vote une loi à l'Assemblée nationale, une loi qui est sensible, il faudrait qu'on prenne le temps de vulgariser cette loi.
C'est peut-être là que le gouvernement a péché en ne divulguant pas suffisamment ce code de l'eau ou bien d'autres textes de la République, mais qui dit à son bas surtout ce que les gens reprochent au général Yark, c'est que si les individus creusent leur forage, c'est que l'État par la TDE n'arrive pas à transporter l'eau jusqu'à eux.
Bon, est-ce que c'est au général Yark qu'il faut faire le reproche?
Il est le ministre en charge de l'eau actuellement.
Il vient d'être ministre.
La continuité de l'État oblige. Il hérite.
Non, c'est pas au fond le débat. Le débat c'est un constat que l'État a failli en un moment donné à ne pas trouver de l'eau aux populations. Il n'y a pas que Lomé. Si on en parle à Lomé, c'est parce qu'aujourd'hui, on a touché à la question des forages. Mais aller à Thiviers, mais la question de l'eau reste un problème. Aller à Bagbé, ici, des gens continuent de puiser dans les retenues d'eau,
les
choses comme ça.
Qu'on partage avec les animaux.
Oui. Chez moi, à Couvé là-bas, à des périodes données de l'année, je parle, le père ayant vécu là-bas pendant longtemps.
Jacques aussi,
je connais très bien.
À des périodes données de l'année, vous n'avez pas d'eau de TDE. Et il n'y a même pas de possibilité d'avoir de forage.
C'est très compliqué. Quand nous avons fait le puits au marché, à l'entrée de la paroisse, c'était la fête au village.
Oui.
Et il faut voir ce que ça a coûté.
Voilà.
Donc, la question de l'eau, c'est une question de survie.
Naturellement.
Donc, il faut bien cerner ça. Je parle à l'antenne pour ça, mais il faut bien cerner. Et il y a déjà des traditions. Par exemple, quand nous, on était petits, nos parents qui sont de conditions modestes, moi, par exemple, mes parents ont construit à Kanikopé. Alors, je vous parle, à Kanikopé, il n'y a pas d'eau. La TDE ne donne pas d'eau. Donc, ça fait des années que nos parents ont fait un puits. Aujourd'hui, avec
les... Un puits à fleurs de peau,
Oui, un puits, juste pour survivre, parce que sans l'eau, tu ne vis pas.
Oui.
Et aujourd'hui, par exemple, les gens veulent aller plus loin. Et comme disait tout à l'heure Jacques, c'est vraiment important que les tests soient connus. Mais ça devient un défi pour l'État de rendre plus accessible l'eau potable et en même temps de créer une synergie avec les privés qui peuvent permettre de pallier à ça. Nous parlons de Lomé, il parle de Couvé, mais allons plus loin. Allons dans nos villages.
Une fois, moi, j'allais en tournée au-delà de Yotokope. Et vers Maïkou, ouais. C'est des villages qu'on connaît pas même sur... Bon, peut-être les communes aujourd'hui connaissent. J'ai vu des femmes qui puisaient l'eau de pluie qui était sur la piste. Ouais. Mais je pleurais parce que j'ai dit, mais moi, je vais passer avec ma voiture dans cette eau ces femmes sont en train de prendre. Et je me suis arrêté, je leur ai dit, vous allez faire avec quoi avec? Ils m'ont dit, Fada, c'est ce qu'on va utiliser. Mais j'ai passé 15 minutes, mais je devais continuer la route. Donc pour dire que c'est une question de vie ou de mort, et donc il faut l'aborder avec beaucoup de profondeur.
Donc revenons donc sur le reproche qui est fait, je crois que c'est un reproche à faire à l'État, et qui... a pris beaucoup de retard sur les événements. C'est ce qu'il faut dire, parce que l'État, je me posais la question de savoir que fait-on au ministère de l'urbanisme, du cadre de vie et tout ce que on aligne là-bas. Qu'est-ce qu'on fait généralement là-bas? On cherche au fond, à la fin de la journée, on ne voit pas grand-chose. Parce que vous voyez, l'État a pris du retard sur un certain nombre d'événements. Et les populations s'installent à des endroits que l'État ne cherche même pas à aller. Et vous voyez, on ne va même pas sortir de Lomé. Prenons un cœur vers Apécito ou Legbas. Prenons très proche de Lomé ici aujourd'hui. Il est compliqué d'avoir de la TDE. Très compliqué d'avoir, je ne vais pas parler là de la CET, c'est encore le plus grand luxe. Et donc les gens se contentent, eux, quand ils arrivent là-bas, comme le père l'a dit, on peut pas vivre on peut vivre sans l'électricité, mais on ne peut pas vivre sans eau. Et des gens se donnent la peine de mettre de l'eau juste pour survivre. Parce que la TDE n'est pas là. Maintenant qu'il y a le code de l'eau qui encadre le secteur et qui demande que les gens aient l'autorisation du ministère de l'eau pour creuser les forages. Pendant longtemps, personne n'en parle. L'État, le code a été voté depuis 2010. Le gouvernement n'a pas fait de la vulgarisation. Il n'y a pas eu de la sensibilisation. Vous savez, le ministre d'État Yarki qui vient, lui, c'est un soldat. Lui-même, il a dit, c'est un soldat qui tombe dans l'eau et un soldat a tendance à faire respecter les règles. Il découvre qu'il faut mettre là une police de l'eau. Et la police de l'eau, ses attributions, c'est de vérifier qui a eu autorisation pour mettre forage et quelle est la qualité de l'eau qui se trouve dans le forage et dans le puits. Ouais. Et donc, lui veut aller sur ce terrain directement parce que ça fait partie de ses missions. Merci. Maintenant que ça indigne plus d'un, je pense que ça revient à l'ensemble du gouvernement.
En tout cas,
le chef de l'État.
Il a le mérite de jeter le pavé dans la mare. Maintenant, le débat va s'animer.
Ça devient débat national.
Chacun sera interpellé devant ses responsabilités. Mm-hmm. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est vrai, l'État a failli par la TDE, qui n'a pas distribué l'eau un peu partout.
Et qui continue de faillir.
En raison de survie. Mais attention, il ne faudra pas que l'eau que nous procurons nous-mêmes par le forage soit également cause de maladie. Je le disais tantôt, ceux qui ont creusé leur forage à 5, 10 mètres, voire même moins de leur fosse septique, quelle eau on boit dans cette maison? Ceux qui ont creusé leur forage dans les environs immédiats des grandes décharges publiques, voire des cimetières, quelle eau on boit là? C'est la question est posée. Chacun va se sentir
interpellé. Ça, si tu permets une minute.
Oui, Jacques.
Ce que je voulais dire, je voulais interpeller quand je parlais de l'Assemblée nationale. Au fait, il y a des députés qui sont sortis. J'oublie le nom du second. J'ai lu le poste du second ce matin. Mm-hmm. Le premier, c'était l'honorable Geritama. Oui. Ce sont eux qui ont posté.
Qui est très actif.
Voilà. Donc, je voulais franchement.
Ça doit être fiacre à tout. Hein.
Voilà. L'honorable Geritama, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais je voudrais plutôt l'inviter. Sur ces questions sensibles-là, il faut qu'il prenne le devant pour aider nos compatriotes. Parce qu'il faut reconnaître que ce qui se passe actuellement, comme vous l'avez si très bien dit, c'est-à-dire qu'on reconnaît que c'est comme si l'État a démissionné au niveau de l'eau. Aujourd'hui, les compatriotes se battent pour avoir de l'eau. Ça, c'est vrai. Prenez même les pistes. Vous allez dans des quartiers, c'est un Togolais qui vient dans le quartier, qui trace la piste, et après, les autres, ils viennent.
Ouais.
Même chose que l'électricité. C'est un Togolais qui prend l'électricité dans le quartier et les autres également s'accordent.
Merci beaucoup, Jacques. Un auditeur qui nous suit, demande au général Yak de ne pas venir troubler leur eau. Et puis, il faut quand même rappeler que depuis quelque temps, l'État a créé la Société de patrimoine de l'eau.
Justement.
Qui détient le patrimoine de l'eau et dont la TDE ne joue que à la distribution. Il est midi, passé de 2-3 minutes, vous nous excusez, on a pris un peu de votre temps, mais maintenant nous nous disciplinons, nous allons à la pause et très bientôt nous nous branchons sur vous.
93.5 Canal FM.
Eh bien, c'est parti, 22-21-33-74-91-36-63-75, la parole est à vous. Tous mes invités sont à mes côtés. Premier auditeur en ligne.
Oui, Fass, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va?
Je salue tout le plateau.
Nous vous saluons en retour.
Et le curé qui est au milieu de vous, je le salue très bien.
Ah, le père Afagnon.
Voilà.
Ah, il vous salue en retour, oui.
Je fais toutes les félicitations à l'école catholique et leur implication. Oui, c'est vrai que l'église a un peu de passion pour eux, surtout leur université école, qui ferme les gens, les Togolais, même à l'extérieur, dans la sous-région. Ça, c'est une belle chose. Bon, mais je voudrais savoir, parce que tout à l'heure, vous venez de dire qu'on a plein de séminaires, des conférences, tout ça là. Bon, dites-moi, et ces conférences, ces étudiants qui vont venir, c'est vrai qu'il y a des hôtels. Mais les sites touristiques, c'est après la conférence, il doit quand même se promener, faire des temps pour aller voir le tour. Mais il s'est dit, moi, ça. Et il y a des lieux très propres qui peuvent quand même. Je sais comment dire. Par contre, moi, ma première fois de parler dans le Côte d'Ivoire en 98, dans un quartier, on a fait écouter à deux plateaux habitants. Mais il y a un supermarché qui dépasse, je ne sais pas, là où tout le monde a. Le jour là, les Ivoiriens m'ont dit comme un gaou parce que je regardais tout être joli.
Merci, l'ami Sandra. S'il vous plaît, nous présumons que les organisateurs des conférences ont pu aménager les programmes pour que les visiteurs étrangers puissent avoir quelques temps pour circuler, découvrir le Togo. Merci, l'ami Senghor. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Monsieur Solim, depuis Mouépé.
Depuis Mouépé.
Oui.
Ok, nous écoutons l'ami Solim.
J'ai deux choses à parler. Je vais parler de la route plus Lula.
Ok, nous écoutons.
S'il vous plaît, Monsieur Sasse.
Oui.
Je remercie le président de la République parce qu'il a tout donné les choses à nos frères du Nord. Moi, je suis.
Ah bon, il a tout donné. Je reviens de ce côté.
Ouais.
Ils n'ont pas tout là-bas. Hein?
Ouais, je remercie. Okay. Je viens, attendez.
Ok.
Bon, maintenant, moi, je suis. Vous connaissez Asco Terrain, non?
Pardon?
Asco Terrain de Caral.
Le terrain quartier. D'Asco?
Oui, c'est-à-dire l'école évangélique. Vous connaissez là-bas?
Oui.
Allez-y là-bas voir. Il y a tous les cadres, c'est mes frères. Moi, j'ai vécu là-bas, je suis né là-bas. Allez-y, monsieur le directeur Awadé Ingrid, Awadé là, le directeur Awadé, le papa de Ingrid.
Mm-hmm.
Allez-y au milieu, c'est-à-dire à sa clôture. Mais la route est vraiment, c'est-à-dire, c'est dangereux, quoi. Mm-hmm. C'est très, très dangereux, c'est honteux. Moi, je suis un enfant du quartier.
Mm-hmm.
Il y a tout, le président de la République a donné tous les atouts à ces messieurs. Il y a le colonel Bali qui est dans le. C'est-à-dire, c'est pas lui, c'est son papa. Nous tous, on a grandi là-bas.
Non, monsieur Solim, c'est l'État qui. L'État, par ses structures, doit construire le pays, pas les individus.
Eh bien sûr, mais quand on les a donné les atouts d'être au haut de l'État, mais ils doivent proposer notre quartier pour que notre quartier puisse ne pas avoir les trucs bizarres comme ça.
Mm-hmm.
Bon, je ne parle pas pour eux, mais allez-y, allez-y voir à côté de, c'est-à-dire la clôture de son papa. Mais on ne peut pas passer là-bas.
Merci, sûrement que Madame Ingrid ou toutes les personnalités à qui M. Solim pense, nous écoute et sauront ce qu'ils peuvent faire pour embellir davantage leur ville de Kara. Merci beaucoup à l'ami Solim depuis Mouépé. L'auditeur suivant, bonjour.
Ouais, ça, c'est un grand plaisir, s'il vous plaît.
Oui.
Mais écoutez, est-ce que au Togo, nous avons le droit d'être autorités? Je lance un appel au président fort de bannir ce poste-là où il y a une vie de l'État. Je suis dans l'âge de l'ouverture et l'enseignement de service parce que Mais écoutez, notre population est comme un tant qui va dans votre champ. Pour même tout vraiment un pays, l'international, et comme vraiment je sais comment c'est, ça ne va pas dégénérer notre pays. Mais dites-moi, qu'est-ce qui peut penser au moins tracer faire un billet ou un boulevard de le maire d'Apollon? C'est que nos dirigeants ne veulent pas.
Merci. Merci beaucoup, l'ami Senghor. Eh bien, madame Zouria Toukassa Traoré. L'auditeur Senghor se demande si un ministre en charge des routes au Togo voudrait bien lui répondre, madame la ministre.
Allô?
L'auditeur suivant, bonjour.
Allô, bonjour.
Bonjour à vous.
Oui, c'est le canal FM.
Oui, oui.
Oui, c'est monsieur Mboma.
Monsieur Mboma.
Mboma, oui, c'est ma première fois de
okay. Vous nous appelez d'où là, s'il vous plaît?
Je suis appelé à Gualpedo.
À Gualpedo.
Oui.
Ok, nous vous écoutons.
S'il vous plaît, vous avez parlé de T2.
Oui.
Oui. Vous voyez, la T2 n'arrive même pas à ce aux gens. Maintenant, on défend de ne pas de demander permission avant de faire le. Depuis le 17 octobre 2011 et 21, j'ai fait la demande de la TD. J'ai fait son 15 000 jusqu'à deux jours. Mm-hmm. J'ai fait mes va-et-vient jusqu'à pratiquer. Même mes va-et-vient la tête pour dépasser même 20 000 pour le carburant. Mm-hmm. Jusqu'à nos jours.
Oui.
Mais vraiment, c'est très pitiable.
Merci. Depuis octobre 2021.
Je suis un militaire retraité.
Oui.
Je suis quoi nos jours? Je ne sais même pas ce qu'il fait ici. Je lui ai demandé, mais s'il ne veut pas me donner même. Il n'a qu'à me dire de cesser même de venir. Moi, ça, le MCDA, c'est trop quoi.
Oui, oui. Merci. Ce militaire retraité qui a fait la demande de branchement à TD depuis octobre 2021. Ça fait 2 ans. Il n'a toujours pas l'eau à Lomé, à Gbalepédo. Merci. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Oui, je m'appelle Essorana.
Essorana. Oui. Vous nous appelez de quel quartier, s'il vous plaît?
À Civito.
Yesu Vito.
À Civito.
À Civito. Ok, nous vous écoutons.
Oui, je veux parler par rapport à Bona.
Oui, l'eau.
Bon, je crois que si le demande qu'on mette une police en place pour la sécurité de la population. Comme une la sécurité partout, ils sont toujours la sécurité en termes de santé. Parce que on dit souvent à vous voir, on a mené de Tinatos,
Jimmy Hooper.
Voilà, c'est pas parce qu'on a besoin de l'eau. Non. On va se livrer à n'importe quel où on va boire. Demain, c'est des maladies, ça arrive que
le bateau. Oui.
Après, encore d'autres problèmes.
C'est ça.
Donc, comprenons le contact, prenons notre mal en patience. Et si on a un forage, le laboratoire est là. Puisons cette eau, amenons ça au laboratoire pour vérifier, voir
les herbes qui sont dedans.
Notre santé en dépend.
Merci. Mais c'est important de nous rappeler aussi, notre santé passe aussi par la qualité de l'eau que nous buvons. L'auditeur suivant, bonjour.
Oh, bonjour, monsieur Sass.
Oui.
C'est Natema.
Natema.
Oui.
Vous nous appelez de?
Je vous appelle de Lomé.
Lomé. Oui. Ok, nous écoutons.
Oui, c'est que vous avez pas. L'eau, c'est la vie. L'eau, l'électricité. C'est ça la population togolaise attend dans ce gouvernement-là. Mais ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'on souffre même sur tout le pays-là. La population souffre. Je ne sais pas si le gouvernement fait ça. Mm-hmm. Si tout le monde, vous êtes à la radio là, si vous sonnez le pays, vous allez voir, même à Lomé ici, si ce n'est pas ni c'était les forages là, est-ce que Lomé peut être Lomé ou bien le Togo peut être le Togo? Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui empêche l'État de faire les forages un peu partout? Il faut faire un prêt. Si on fait un prêt, c'est j'ai dit ça, le courant. Si vous allez partout là, c'est les araignées. Et ça fait dépenser énormément la population. Quelqu'un va faire 6 kilomètres. Vous allez, vous mettez les fils, on vient, on vole. Ça, est-ce que ça là, le chef de l'État là, est-ce qu'il dit 6 zones, tout ça là, on paye 1000 francs. Je ne sais pas, est-ce qu'il sait que le compteur reste quelque part au bord de la route et il faut conduire le courant très loin quelque part?
Merci de le rappeler, monsieur Natema.
Oh, merci.
Le président, il est dans son bureau, il ne sait pas tout. Il a besoin des gens comme vous pour lui dire comment le pays se porte réellement dans tous les coins et recoins.
Bonjour.
Oui, le tout dernier auditeur, oui, bonjour.
C'est Commis.
Commis.
Monsieur Sass.
Oui.
Je veux bien que votre direction envoie une invitation à M. Jacques. Il n'a qu'à passer dans une émission chez vous ici. On va lui poser des questions.
Ok.
La grande muette, il n'est plus de ce rang-là. Il est au ministère de l'eau. Je pense que là, on ne va plus l'interdire de venir nous expliquer ce dont il veut en parler.
Mm-hmm.
Parce que, franchement, ça tape sur les nerfs. Surtout que nous cherchons l'eau, on ne trouve pas, on a des puits difficiles de puiser, et que lui sort, on ne le comprend pas. Et ça fait un grand moment que tout le ministère, tout le gouvernement se cache. Seulement, on entend des interviews passives. Ils n'ont qu'à venir nous expliquer ce dont ils entendent parler. Merci.
Mais je vous en prie, l'ami Komi, nous transmettrons fidèlement. Eh bien, voilà un impératif et nous reviendrons pour le tour de conclusion.
93.5.
Merci à tous les amis qui ont pu entrer en ligne avec nous pour élargir notre horizon et je présume également élargir l'horizon des autorités qui écoutent cette émission ou bien à qui on va rendre compte. Traditionnel tour de table, vous avez chacun 90 secondes pour vos commentaires de fin. Commençons par Komi, on va terminer avec la bénédiction de mon père. Komi, oui. Didier.
Oui, oui, un peu comme nous le disons, c'est l'eau, la question de l'eau, on sait que c'est crucial, ce que, même comment conjuguer maintenant la logique du général Ariarque qui voudrait que l'eau dans nos robinets soit une eau de bonne qualité. Et je crois d'ailleurs que c'est dans ce sens que la Banque mondiale finance ce projet, la PACHMOUT, qui devrait normalement aider les autorités, y compris la TDO, la TDE, à pouvoir élargir et faciliter l'accès, étendre le réseau et faciliter...
Dans quelques quartiers périphériques de la ville de Lebec.
Oui, pas, si on dit quelques, c'est encore plus grave.
Le projet.
Oui, le projet...
De quelques quartiers.
Bon, oui, quelques quartiers, mais bon, tous les quartiers attendent de l'eau. C'est là le problème. Et donc, je pense qu'il faut en même temps conjuguer, voilà, la qualité de l'eau et à l'accessibilité.
Mm-hmm.
Mais est-ce que les gens vont continuer à attendre la qualité et mourir de soif? Bon, voilà, c'est la question, mais je pense que le gouvernement doit prendre ce problème-là globalement mm-hmm. pour essayer de trouver un juste milieu pour que cette question éminemment sociale ne débouche pas sur autre chose. Et au-delà de l'eau, nous parlons des services publics en général aujourd'hui. Un peu comme ce militaire-là en retraite qui a appelé, à Balipédo, qui dit qu'il a fait la demande depuis
déjà deux ans
et qu'il a même marché fatigué. Lui-même, il dit, si vous ne voulez pas me donner la, dites-moi. Et on ne lui dit rien. Et ça, c'est lui qui a eu le courage peut-être d'appeler. Si beaucoup de gens qui se retrouvent dans le cas vont appeler, vous imaginez ce que ça va être. Ça, c'est que l'eau, ça. Si on va parler de l'électricité, on va parler des autres services publics. Je crois que l'État, le gouvernement a beaucoup de travail encore à faire et il faut retrousser les manches.
Merci beaucoup, Jacques.
Non, je crois que tout au début, vous avez tout dit concernant cette histoire de l'eau. Je ne pense pas que le gouvernement soit là pour empêcher nos compatriotes d'avoir leur forage à la maison. Mais c'est pour leur sécurité. Et c'est le lieu également d'inviter le gouvernement à vulgariser souvent les tests, les lois adoptées au niveau de l'Assemblée nationale. C'est dans leurs intérêts. C'est comme le cas des églises aujourd'hui, où vous savez, il est interdit la création des églises. Mais le gouvernement ferme les yeux. Demain, quand ils vont se lever, vouloir maintenant sévir, vous voyez le tollé que cela va encore donner. Mm-hmm. En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que quand vous prenez les tests, les lois, vulgarisez ces tests. Je voulais revenir un peu sur le service dont parlait tout à l'heure Didier, le service de l'État. Ça, il y a nos compatriotes aujourd'hui que je connais, certains qui ont fait des prêts au niveau des banques pour créer certaines structures. Ils attendent seulement que le ministre signe l'autorisation pour qu'ils puissent commencer par opérer et travailler.
Quel ministre?
Je ne voulais pas donner le nom.
Si,
non, que... mais...
Il se reconnaît.
Il se reconnaît.
Okay.
Vous voyez, les gens ont fait des prêts pour pouvoir réaliser ce qu'ils veulent faire. Mais une simple autorisation que le ministre doit signer, le ministre ne signe pas. Et autre aspect, mais c'est que les banques sont...
Tout se rendrait service en nous faisant découvrir le ministre dont il s'agit. Hein.
Non, j'ai dit, les gens se connaissent.
Okay.
C'est ça.
Merci beaucoup, mon père.
Je voudrais remercier votre radio et saluer à nouveau les auditeurs et auditrices, inviter tous ceux qui le peuvent à la rencontre de jeudi et plaider encore pour que nous puissions travailler ensemble pour une ressource humaine de qualité dans notre pays. Tout ce que nous posons comme problème, tout le monde interpelle le gouvernement, je suis d'accord. Mais si le gouvernement fait sa part, et que le technicien est un bricoleur, et que peut-être le comptable, c'est quelqu'un qui va faire une mauvaise gestion, ainsi de suite, de l'endroit où les fonds vont partir jusqu'à l'arrivée où il faut réaliser le projet, il y aurait vraiment des problèmes.
Vous avez parlé de quelques chantiers en souffrance, mon
voilà.
Père.
Donc, il est important que nous puissions devenir des citoyens qui s'engagent à faire nécessairement ce qui nous revient. Parce qu'aucun pays ne s'est développé seulement par son gouvernement. Mais il faut aussi beaucoup de rigueur de la part du gouvernement. Nous avons un petit pays. Moi, je serai jamais un responsable à ce niveau. Mais imaginons qu'aujourd'hui, avec l'Internet, depuis son bureau, le chef de l'État peut contrôler tout ce qui se fait comme œuvre dans le pays. À partir de la primature, on peut savoir qu'on a inauguré telle route. Qu'est-ce qui se fait? Est-ce que les gens travaillent et tout? Et interpeller les gens. Je pense que nous avons besoin d'un gouvernement qui puisse renforcer le suivi et en même temps des citoyens qui innovent en termes de qualité. Et pour ça, l'éducation est indispensable.
Tout commence par l'école. Hein, vivement que nous puissions avoir le temps d'aller assister à cette journée qu'offre l'enseignement catholique le jeudi 19 octobre prochain au sein de l'OCDI et toutes les autres activités qui vont nous conduire jusqu'à la fin du jubilé des 130 ans de l'école catholique au Togo. La semaine est lancée par cette émission. Il ne me reste qu'à vous remercier, vous mon père, Didier et Jacques, le technicien Victor Gwekoku, Michel Tomega qui nous a accompagnés, mais aussi et surtout vous, les auditeurs, vous qui nous avez écoutés, vous qui avez co-animé et vous qui avez ouvert la braille sur certaines préoccupations dans vos quartiers. Nous vous remercions et nous comptons sur vous pour le rendez-vous de demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu va le vouloir certainement parce que nous le prions ainsi.
Amen.